Bienvenue à tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, Trump dans le cloud, l'avenir du monde et nous, rencontre avec le triple lauréat du prix Pulitzer, éditorialiste en chef au New York Times, notre invité Thomas Friedman aujourd'hui. Lost in the cloud, perdu dans un nuage numérique, nous y sommes, de réseau en algorithme, comment survivre dans le monde de demain, quand tout va si vite, comment s'adapte-t-on? Élément de réponse aujourd'hui dans un ouvrage qui vient de paraître, Merci d'être en retard, aux éditions Saint-Simon, un ouvrage qui fait suite à son best-seller, paru en 2006, best-seller sur la mondialisation vue d'Amérique, La Terre est plate, paru en France, donc c'était en 2006. Suivront La Terre perd la boule, trop chaude, trop plate, trop peuplée, en 2009, et Back in the USA, quand l'Amérique se réinvente, en 2012. Bonjour à vous, Thomas Friedman. Merci d'être avec nous et merci à votre traducteur Xavier Combe, bonjour.
Bonjour Olivia.
Juste pour essayer de cerner un petit peu le personnage qu'on a en face de nous, Thomas Friedman, est-ce que vous êtes un technophobe ?
That's a very good question.
C'est une bonne question.
I guess the way I would describe it is what I've come to appreciate is that the faster the world gets.
En fait, je me rends compte que plus les choses s'accélèrent dans le monde, plus il est important de prendre conscience du nombre de choses que l'on ne peut pas télécharger.
Ce qui
est très important, c'est toutes les choses qu'il faut faire un upload, donc charger vers Internet, à l'ancienne en quelque sorte. Donc, autrement dit, l'enseignant transmet, le parent transmet à l'enfant, un chef spirituel transmet au paroissien. À l'ancienne, donc, à mon avis, ce qui va définir la société, c'est la qualité des valeurs de la société. Et la raison en est toute simple. Internet est devenu le centre de notre vie. Mais Internet, c'est une plaie ouverte. Une plaie ouverte d'informations non traitées, non filtrées. Par conséquent, si vos enfants ou si vos citoyens n'ont pas de filtre interne, autrement dit les bonnes valeurs, pour vivre dans un monde défini par ce flux incessant qui sort de cette plaie ouverte, il en sort de l'or, mais aussi des cailloux et des clous rouillés, et bien dans ce cas-là, évidemment, on aura des tas de problèmes dans la société.
Vous, Thomas Friedman, vous en avez un petit engin comme ça, toujours sur vous, ce que vous appelez, vous, les Américains, les smartphones, on a un peu copié le terme, nous on dit téléphone intelligent, oui ? Oui, vous êtes connecté quand même.
Je suis modérément connecté. J'ai un téléphone portable, mais évidemment, je tiens le discours de la mondialisation, mais en tout cas, je ne pratique pas. Je ne suis pas pratiquant. Sur Twitter, vous ne trouverez pas Thomas Friedman. Facebook, je ne connais pas. Je ne fume pas de cigarette. Et mon projet, c'est de rester ainsi jusqu'à ma mort.
C'est paradoxal quand même de dire à la fois que vous pensez qu'il faut s'ouvrir au progrès, etc. Et en même temps, vous, vous résistez. Comment vous expliquez cette attitude ?
Je crois
que c'est une question d'équilibre.
Moi,
je veux quand même bien être au courant de ce qui se passe dans ces flux, mais je ne veux pas que ces flux d'informations dominent l'aspect en moi d'humanité. Je connais mes amis, et mes amis, ça va au-delà de gens qui me font un like sur Facebook. Moi, j'apprends par le contact humain, face à face. Et évidemment, le big data, c'est tout à fait remarquable. Mais je crois que lorsque l'on est en face à face avec quelqu'un, eh bien on partage quoi ? Des données aussi.
D'où le titre d'ailleurs de ce livre, Merci d'être en retard. Un jour vous attendiez quelqu'un et vous avez eu l'occasion à la fois de regarder autour de vous, de grappiller dans les conversations alentour et puis de vous poser certaines questions sur l'avenir du monde. Ça veut dire d'où vient-on et où va-t-on ? Quand votre interlocuteur ou ami est arrivé, vous lui avez dit merci d'être en retard, merci de m'avoir permis de faire pause. Et bien faire pause justement, on va le faire ensemble jusqu'à 13h30 tout en tentant d'avancer. En 2005, Thomas Friedman, quand vous publiez votre premier best-seller, La Terre est plate, Facebook n'existe pas. Et écrivez-vous avec beaucoup d'humour. Twitter est encore un verbe, gazouiller. Le cloud, ce nuage, une vapeur dans le ciel. La 4G, les coordonnées d'une place de parking. Une application, une couche de peinture. Le big data, à la rigueur, un surnom de rappeur. Et Skype, une erreur typographique. La plateforme, apparue en 2007, représente un des plus grands bonds en avant de l'histoire. Vous voyez cette date de 2007 comme une date tournant dans notre époque. 10 ans après, qu'en reste-t-il ?
Well, let me say two things in response to your question.
Dire deux choses. Tout d'abord, ma citation préférée est de mon mentor, Dov Seidman. Il dit, lorsque l'on appuie sur le bouton pause sur un ordinateur, ça s'arrête. Mais quand on appuie sur le bouton pause sur un être humain, eh bien là, les choses démarrent. C'est là que l'on peut commencer à réfléchir, à repenser et à imaginer les choses. Et étant donné ce qui s'est passé en 2007, eh bien, je me dis qu'il faut vraiment appuyer sur le bouton pause des êtres humains à l'heure actuelle. Que s'est-il passé en 2007 ? Eh bien, c'était la sortie de l'iPhone. C'était la mondialisation de Facebook. Twitter est devenu mondial en 2007 aussi. Hadoop est sorti, on a créé cette fondation pour le Big Data. Android est sorti en 2007. Google a racheté YouTube en 2007. Amazon a sorti le Kindle. En 2007, IBM a créé Watson, l'ordinateur cognitif, en 2007. Trois étudiants de San Francisco qui assistaient à la conférence sur le design en 2007 ont découvert que toutes les chambres d'hôtel étaient prises. Il y en avait un qui avait trois matelas gonflables. Ils ont décidé de les louer aux gens qui voulaient une chambre d'hôtel, qui n'en trouvaient pas. Et ça a si bien fonctionné en 2007 qu'ils ont lancé un concept que l'on connaît désormais sous le nom de Airbnb. C'était en 2007. Internet, 1 milliard d'utilisateurs, a franchi ce cap en 2007. Et en 2007, c'était la naissance du cloud. Et on a tout raté. Et parce qu'il s'est passé quelque chose en 2008.
C'est-à-dire une crise économique majeure.
Justement, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Parce que vous nous dites qu'en 2007, il y a cette explosion effectivement assez impressionnante de progrès. Est-ce que vous faites un rapport entre les deux, de cause à effet, par exemple ?
Évidemment, il y a un rapport donc, entre la politique française et la politique aux États-Unis. Au début des années 2000, il s'est produit deux choses. Attendez. Je reviens en arrière. La classe moyenne, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ont été bâties sur ce boulevard vers les emplois à compétences moyennes. C'est ça. La classe moyenne, elle repose là-dessus. Et au début des années 2000, donc, il s'est produit deux choses. Et ces deux choses ont détruit un grand nombre d'emplois à compétences moyennes, mais à rémunération forte, aussi bien en France qu'aux États-Unis. En 2001, la Chine a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, les exportations chinoises étaient alors à même de dévorer de plus en plus d'emplois à compétences moyennes, aussi bien en France qu'aux États-Unis. En parallèle, à mesure que ce train chinois déboulait sur les voies économiques, l'explosion technologique de 2007 a connu une extension énorme et les logiciels et les machines se sont emparés de ces emplois à compétences moyennes de la classe moyenne. Donc ces deux phénomènes, le train chinois et le train technologique de 2007, ces deux trains, si je puis dire, ont mis à bas des milliers d'emplois de la classe moyenne. Donc, il y avait des emplois à forte compétence, très bien rémunérés, des emplois à faible compétence, faiblement rémunérés, mais entre les deux, c'était la classe moyenne française et la classe moyenne américaine, hein, c'est ça dont je vous parle. Puis, en 2008, on a eu la crise des hypothèques, des prêts hypothécaires aux États-Unis. Les deux ensemble ont constitué un étau étau qui a écrasé les gens de la classe moyenne par dizaines de milliers, centaines de milliers. Et cela a donné lieu à quoi ? Au Brexit, à Trump et Le Pen.
Et ça, vous l'aviez vu venir, tout ça, vous, Thomas Friedman, parce que dans La Terre est plate, quand même, vous nous décrivez plutôt l'image d'une mondialisation heureuse, dans cette interconnexion des individus et des acteurs, cette collaboration entre eux. Vous souligniez déjà à l'époque que c'était une mise en concurrence des individus et des personnes, mais qui, pour vous, pouvait aboutir, donner naissance à un monde qui vous rendait plutôt optimiste.
Tout dépend du point de vue que l'on adopte. Si l'on considère le point de vue de Dieu, bon, Dieu est heureux. Et en Chine et en Inde, il y a 300 millions de personnes qui n'étaient plus pauvres. Et ça, c'était d'une rapidité inouïe. Si on prend le point de vue d'un ressortissant français ou américain de la classe moyenne, 30 millions de personnes, eh bien, on connaît un monde beaucoup plus dur. Du point de vue de Dieu, 30 millions d'un côté, 300 millions. Bon, bien joué, Dieu, n'est-ce pas ? Mais si on prend la classe moyenne en France et aux États-Unis, là, pas terrible. Tout dépend du point de vue que l'on adopte.
Tout dépend du point de vue que l'on adopte. Alors revenons à aujourd'hui, devant cet emballement qu'on a décrit, 10 ans après cette fameuse année tournant, celle de 2007, ces accélérations de l'histoire. Il semblerait qu'on soit quand même resté quoi, vous, Thomas Friedman, invité aujourd'hui de la Grande Table, mais également nous. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne peut pas se transformer aussi vite que la machine ? Ça, c'est ce qu'a prouvé cette décennie passée pour vous ?
So I think it is possible. To thrive in this era.
Moi, je crois que l'on peut bien vivre.
I have a quote in the beginning of the book. I grew up in Minnesota.
Et je fais une citation. Moi, j'ai grandi dans le Minnesota, donc dans le Midwest des États-Unis. Et il y a un membre du Parlement, représentant du Minnesota, qui a dit être un homme blanc dans les années 50, 60, 70 dans le Minnesota nécessitait un projet si on voulait échouer. Un projet pour échouer, parce qu'il y avait tant d'emplois qu'il fallait vraiment faire montre d'un projet formidable pour échouer. Aujourd'hui, l'homme blanc moyen a besoin d'un plan, d'un projet pour réussir. Et ce projet, il faut le mettre à jour tous les 6 mois. Et c'est un défi que doivent relever de nombreuses personnes. Il faut apprendre à vivre tout au long de sa vie. Il n'y a pas d'autre choix.
Et there is no alternative. Bon, on reconnaît cette phrase qui est peut-être la phrase de la mondialisation. Il n'y a pas d'alternative. Et est-ce que ce n'est pas finalement le problème de fond qui se pose, à savoir que la liberté d'orienter les choses dans un sens ou dans un autre aurait disparu de l'espèce humaine et politique.
Le monde est plat, il y a une chose, et je dis une chose dans laquelle je crois encore. À l'ère de la technologie, ce qui peut être fait sera fait. Si mon téléphone me permet de faire un certain nombre de choses aujourd'hui, il sera utilisé, ce téléphone. Donc tout ce qui peut être fait sera fait. Mais est-ce que ce sera quelque chose que vous ferez de vous-même ou est-ce que ce sera quelque chose qui vous sera imposé?
C'est ça le choix, c'est ça le choix.
C'est ça le choix, oui. Donc, moi, je jure que je ne suis pas responsable de tout ça. Moi, j'essaye simplement de démêler la réalité des choses, hein, d'essayer d'éviter le pire comme tout le monde.
Et cependant, vous avez une attitude, vous l'avez dit au début, de résistance à cette accélération. Donc, il y a peut-être aussi une possibilité, sans forcément remettre en cause la flèche des choses, peut-être au moins d'essayer de l'orienter ou de ne pas se laisser ensevelir, submerger. C'est aussi un choix.
Je suis américain, mais ce que je dis, je pense que ça s'applique à la France aussi. Hein. Vous, dites-moi si je me trompe, mais si on veut être optimiste vis-à-vis des États-Unis, il faut marcher sur la tête. Mon pays, en réalité, il faut le regarder à l'envers. Autrement dit, il faut le regarder d'en bas. Si vous regardez les États-Unis depuis Trumpland, le pays de Trump, eh bien c'est un désastre, avec un D majuscule. Si vous venez à Minneapolis, ma ville à moi, eh bien 2,9% de chômage, et donc ça se passe bien. Mais pourquoi ? Qui réussit aux États-Unis à l'heure actuelle ? Eh bien, les communautés, les bourgs, les villes qui ont créé un organisme qui sait s'adapter, et la communauté des affaires et du commerce est intimement liée au système des écoles, le système scolaire. Les connaissances sont transmises de façon bidirectionnelle. Aux États-Unis, il y a des philanthropes qui donnent de l'argent pour financer l'éducation, des expériences pédagogiques, et tout cela, c'est géré par les autorités locales, les collectivités locales aux États-Unis. Venez avec moi à Minneapolis, venez à Portland, à Seattle, à Austin, au Texas, à Charleston, à Chattanooga. Et bien là, vous verrez des villes qui s'adaptent au XXIe siècle. Par ailleurs, il y a des villes qui ont échoué. Et là, il y a une épidémie, disons, d'héroïne. Donc, il faut savoir mettre en place une communauté, une collectivité locale saine et qui donne la possibilité aux gens de réussir. Moi, je crois que le gouvernement national fédéral américain est trop lent pour s'adapter à ce changement rapide. Et la famille avec un seul parent est trop faible pour s'adapter aussi. Donc, il faut travailler au sein de la communauté, ensemble, et c'est là qu'on peut réussir avec des collectivités locales dynamiques. C'est pourquoi il y a dans mon livre une bande originale, une chanson. Et je me suis dit que si je pouvais acheter la chanson, de même que par dans certaines cartes d'anniversaire, on ouvre la carte et il y a une petite mélodie. Moi, je voulais faire ça pour mon livre. C'est une chanson de Brandi Carlile, chanteuse de country. Ça s'appelle L'œil. Et le refrain est le suivant. Je me suis entouré de ton amour comme on s'entoure d'une chaîne. Je n'ai jamais eu peur que notre amour ne périsse. On peut danser dans un ouragan, mais on ne peut danser dans un ouragan que si on se situe dans l'œil de celui-ci. Moi, je crois que cette ère d'une accélération, c'est comme un petit peu comme un tourbillon. Nous sommes dans un ouragan. Trump et Marine Le Pen vendent quoi ? Un mur pour se battre contre cet ouragan. Moi, je vous vends l'œil.
Et c'est ce qui est intéressant justement dans cette accélération permanente. Et vous évoquez, vous vous appuyez sur cette fameuse loi de Moore hein, qui nous dit qu'un monde nouveau peut émerge tous les 18 mois aujourd'hui avec la technologie, avec les ordinateurs qui accouchent hein, donc de ce nouveau monde à un rythme effréné finalement. C'est que cette figure de Trump que vous évoquez, en promettant de freiner le changement, de revenir à une Amérique presque d'hier, Trump, l'imprévisible, devient aussi une figure rassurante, en fait, dans ce monde.
Il y a beaucoup de gens pour qui le monde va beaucoup trop vite. Il y a des gens qui ne veulent pas être constamment obligés de s'adapter tout au long de leur vie. Ce sont des gens tout à fait respectables. Ils veulent travailler dur, mais ils veulent des instructions. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à se réinventer tous les 6 mois. Moi, je dis à mes filles, moi j'ai 63 ans, et je dis à mes filles ceci, lorsque je suis sorti de la fac, diplôme en main, il fallait que je trouve un boulot. Vous, votre boulot, il faudra que vous l'inventiez. C'est ça la différence entre les deux générations. Pour certaines personnes, les choses vont trop vite et je le comprends bien. Il faut qu'on s'occupe de ces gens-là. Mais tout ralentir, là, c'est la recette magique pour appauvrir tout le monde.
Pour reprendre votre image de l'ouragan, il faudrait que tout le monde puisse se situer dans cet œil. Or, vous dites vous-même que certains ne souhaitent pas ou ne veulent pas. Comment survivent ceux qui ne sont pas dans l'œil du cyclone ?
Well, I think everyone should want to be in the eye and can be in the eye because
tout
the eye is the healthy community.
Le moyen d'être dans l'œil du cyclone, parce que là, c'est la communauté saine dont je vous parlais précédemment, qui s'occupe de tout le monde avec plus de possibilités d'éducation et de travail, mais avec plus de filets de sécurité aussi, les services de santé, la retraite, des possibilités d'éducation, de formation. Et ça, on peut le faire au niveau des collectivités locales, mais pas au niveau national, aux États-Unis notamment. C'est pourquoi je crois que l'avenir réside au niveau des collectivités. Donc c'est là qu'il faut investir dans les ressources parce qu'à ce niveau-là, il y a suffisamment d'agilité et d'adaptabilité pour faire face à l'accélération des choses. Si vous attendez que ce soit Donald Trump qui vous sauve, eh bien vous attendrez longtemps.
Alors comment s'adapte-t-on à ce monde en permanente mutation, en accélération aggravée ? En France, on a beaucoup discuté autour du concept même d'ubérisation qui avait été lancé par un publicitaire, Maurice Lévy, et qui disait d'ailleurs à l'époque « Tout le monde commence à craindre de se faire ubériser. C'est l'idée qu'on se réveille soudainement en découvrant que son activité historique a disparu. » C'est ce que vous venez d'évoquer, Thomas Friedman, sur les craintes soulevées, notamment du côté des réalités économiques et surtout humaine, c'est-à-dire de nous, comment allons-nous pouvoir réagir par rapport à tout cela. Écoutez ce qu'en dit Bernard Stiegler, c'est un philosophe français, il est lui spécialiste des questions du travail et il ne vous aura probablement dans ses analyses pas échappé.
Si nous sommes capables d'inventer un nouveau modèle macroéconomique, car c'est une nécessité absolue, si les analyses de Oxford se confirment que d'ici à 20 ans, dans toute l'Europe, 50% des emplois auront été perdus. Un problème va se poser, c'est de savoir avec quoi les gens vont consommer. Et un emploi, c'est ce qui peut être réalisé par un robot, à la différence d'un travail. Un travail n'est pas réalisé par un robot. Jamais Picasso ne sera remplacé par un robot. Picasso travaille. Un médecin qui fait vraiment son métier travaille. Un artisan aussi qui fait vraiment son métier travaille. Ils produisent ce qu'on appelle depuis une centaine d'années, de la négantropie. C'est-à-dire qu'ils produisent de l'improbable, de l'imprévisible, de l'incalculable. Les robots permettent de faire des choses extraordinaires, mais toujours dans le calculable. Tout ce qui est calculable est automatisable, et tout l'emploi est automatisable de ce fait. Donc l'avenir est au travail, mais c'est un travail qui se fera éventuellement hors salariat. Ce dont nous parlons, ça relève de ce que nous appelons un revenu contributif, c'est-à-dire l'extension du régime des intermittents du spectacle à toutes les activités qui produisent de la valeur négantropique, c'est-à-dire de la valeur véritablement non productible par des robots.
Si, hein, nous dit Bernard Stiegler, qui croit, lui, en la valeur travail qui va devoir se réinventer à l'avenir. Alors, en sommes-nous capables ? Comment faire pousser une communauté saine, comme vous l'avez évoqué, Thomas Friedman, sur ce terreau virtuel ? Quelle organisation viable peut supplanter l'État, dont vous annoncez d'ailleurs plus ou moins la disparition prochaine, ou du moins son ingouvernabilité ?
We always have to remember if horses could have voted, there never would have been cars.
Si les chevaux pouvaient voter, il n'y aurait jamais eu de voiture. Souvenons-nous de ça.
You never will see it coming. What was coming?
On ne peut guère prévoir l'avenir. Je viens d'écrire un éditorial le mois dernier avec un ami et nous avons dit ceci. Pendant de nombreux siècles, l'homme a travaillé avec ses mains. Puis, au cours du siècle dernier, nous avons travaillé de plus en plus avec notre matière grise. Moi, je crois qu'au 21e siècle, nous allons travailler avec notre cœur. Aucun robot n'aura jamais de cœur. Dans mon livre, je parle d'un entretien avec le médecin en chef aux États-Unis. Je lui ai demandé quelle est la plus grande maladie aux États-Unis, le cancer, les maladies cardiaques ou alors le diabète. Il a dit non, c'est pas ça, c'est l'isolement. L'isolement. Nous vivons tous connectés avec Internet. Et vous dites que c'est l'isolement, les gens qui ne sont pas connectés, déconnectés. Autrement dit, il va y avoir des milliers d'emplois pour reconnecter les cœurs des êtres humains. La chaîne de restaurants qui a connu la plus forte croissance aux États-Unis il y a 2 ans, vous savez ce que c'était ? Paint night.
Paint by numbers for adults in bars.
Autrement dit, de faire des dessins en suivant des numéros en couleur pour les adultes dans les bars. Il y a beaucoup d'adultes qui aiment bien faire de la peinture, faire des dessins ensemble, parce qu'ils se sentent isolés chez eux, donc ils se retrouvent au bar pour des petits exercices comme cela. Et il y aura plein de boulot pour les artistes à l'avenir. Qui aurait pu penser qu'une chaîne comme ça aurait pu marcher avec des gens qui vous expliquent comment on fait les dessins dans les bars pour les personnes isolées ? Les robots ne gagneront que si on les laisse gagner.
Et pour les journalistes, est-ce qu'il y aura encore du boulot à l'avenir ? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez plus menacé, Thomas Friedman, et je rappelle que vous êtes éditorialiste au New York Times, par Donald Trump ou par la robotisation, l'automatisation ?
Thank God for Donald Trump.
Dieu merci, il y a Donald Trump.
Because he has made
Parce
the New York
Donald
Times
Trump
more profitable than ever.
A redonné vie au New York Times qui engrange des bénéfices comme jamais. Au cours du dernier trimestre de 2016, nous avons gagné près de 300 000 nouveaux abonnés. Parce qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de fake news, les
Alors,
fausses nouvelles.
Tous ces nouveaux lecteurs gagnés, ça vous oblige quand même, vous, les médias, vous, les journalistes, à délivrer effectivement une information impartiale. Comment faire quand on est dans une situation de guerre ouverte, comme vous l'êtes actuellement avec le nouveau président des États-Unis ? Rappelons qu'en février dernier, Donald Trump a tweeté « Les fake news médias ne disent pas la vérité, une grande menace pour notre pays, le New York Times à la dérive est devenu une risée, ainsi que CNN, vous êtes vraiment dans le viseur ». Cible première hein, de ce président. Vous lui avez répondu par clip interposé. C'était notamment à la cérémonie des Oscars où vous avez décliné cette notion de vérité parce qu'on est beaucoup là-dessus aujourd'hui aussi aux États-Unis, celle des alternative facts, des fake news, des questions de post-vérité. La vérité est dure à trouver, à connaître. La vérité est aujourd'hui plus importante que jamais, concluait ce petit clip en réponse à Donald Trump.
The New York Times, you know, really believes that
New York Times
what we're trying to do
est convaincu que son dessein consiste à présenter les informations sans crainte et sans favoritisme. Et ça, c'est un dessin plus important que jamais. Il y a des gens qui me demandent ce que je fais pour gagner ma vie. Et je leur dis, moi, je suis un traducteur anglais-anglais. À cette époque où les choses sont très complexe, la capacité d'expliquer les choses, de démêler la complexité est plus importante que jamais. C'est pourquoi ma citation préférée du livre est de Marie Curie. Elle dit « Le moment est venu de comprendre davantage, ainsi nous aurons moins peur ».
C'est celle que vous aviez repérée, Antoine Mercier ?
Non, je voudrais vous demander, parce qu'en parlant des robots et des journalistes, vous y avez une séquence très intéressante dans votre livre. Vous reproduisez un quiz de 2015 que le New York Times a publié sur des textes. Et puis, on demande aux gens, est-ce que c'est un humain qui l'a rédigé ou est-ce que c'est un robot ? Et à la lecture des différents brèves que vous donnez, on a du mal à se faire une idée de répondre correctement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un texte écrit par un humain et un texte écrit par un robot, enfin un journaliste ou une personne ?
Il est évident que les machines vont devenir de plus en plus intelligentes. Les machines pourront faire de plus en plus de choses. Dans 5 ans, à mon avis, il y aura une machine qui pourra rédiger mon édito. Mais je ne pense pas pour autant que la machine sera capable d'empathie. Moi, je pense que les meilleurs emplois à l'avenir, mais vous, Olivia, Antoine, vos boulots à vous. Donc, c'est des boulots de stempathie, j'explique. Donc, il y a la science, la technologie, engineering pour l'ingénierie et les mathématiques, ça c'est le STEM, l'acronyme, et évidemment l'empathie humaine. Lorsqu'on me demande qu'est-ce que je dois faire pour être journaliste comme vous, moi je dis il faut savoir taper sur un clavier d'ordinateur à toute vitesse, j'ai appris à faire ça. Il faut avoir quelques connaissances en matière d'histoire, de philosophie, d'économie. Mais avant tout, il faut aimer les gens. Et quand on aime les gens, eh bien les gens s'ouvrent.
Et
c'est étonnant de voir à quel point certains journalistes peuvent détester les gens d'ailleurs. Il y a des misanthropes. Mais pour réussir dans le journalisme, Il faut être à l'écoute et écouter les choses insensées que les gens disent, font, espèrent. Et si on ne peut pas écouter la mélodie, on ne pourra jamais faire de la musique. Et moi, aucun robot ne me fait peur, parce que les robots ne savent pas écouter. Il faut être à l'écoute des êtres humains.
Oui, cette accélération quand même des technologies montre et souligne l'évolution de nos métiers. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous vous considérez comment, Thomas Friedman, comme un contre-pouvoir? Comment faire aussi que les médias ne soient pas des acteurs du système, c'est-à-dire dans cette opposition, accord-opposition, ne pas entretenir quelque part la machine?
C'est une très bonne et importante question.
Très bonne question, fort importante. Et nous sommes confrontés à cela au New York Times aux États-Unis. Parce que lorsqu'un parti détient le pouvoir au Congrès, à la Maison-Blanche, à la Cour suprême, il n'y a pas d'opposition politique. Et nous, au New York Times, nous représentons l'opposition. Mais on n'a pas été fait pour ça.
C'est nous,
le New York Times, qui a diffuser l'information sur le serveur, les problèmes des courriels d'Hillary Clinton. Donc évidemment, on s'intéresse aux deux aspects, aux deux parties. Mais en même temps, il faut se souvenir que il y a des choses qui sont vraies, même si Donald Trump y croit. Sinon, Trump va vous rendre complètement dingue. Et d'ailleurs, c'est une tactique qu'il emploie. Il veut que l'on devienne dingue, il veut que l'on devienne fou, que l'on aille juste un peu trop loin. Trump va vous dévorer la cervelle. Et c'est pourquoi nous, journalistes, nous devons rester très focalisés. Et il ne faut pas mordre à l'hameçon.
J'avais une question parce que je me demandais si cette accélération dont vous nous parlez dans ce livre ne nous amène pas au cœur de l'humain, paradoxalement, selon votre thèse, c'est-à-dire qu'il y aurait, pour atteindre ce cœur de l'humain, on serait contraint de passer par cette phase d'accélération. Est-ce que vous avez cette vision, j'allais dire, historique du mouvement ?
Oui, je crois qu'au bout du compte, s'il y a une chose qui nécessitera toujours un emploi, c'est l'attention que l'on porte à l'humanité et l'expression de notre humanité. C'est pourquoi je suis optimiste.
Merci beaucoup Thomas Friedman d'avoir été à l'heure pour nous parler de cet ouvrage. Merci d'être en retard. Survivre dans le monde de demain qui vient de paraître donc aux éditions Saint-Simon. Merci Antoine Mercier. Merci Xavier Combes pour votre traduction. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutant avec Julien Rosa, Coppelia Ménardi et Andrea Kinapi. Aux manettes ce mercredi, Perret Legras avec Bruno Gagnère. Vous pouvez nous podcaster, nous écrire à la page de La Grande Table sur franceculture.fr.